Bonjour à toutes et à tous, à chacun, chacune, Christophe Jubien pour vous accueillir à bord de Libre Propos, l'émission hebdomadaire de Radio Rancière confiée à Monseigneur Philippe Christori, évêque de Chartres, une tâche dont il s'acquitte fidèlement depuis sa nomination au printemps dernier. Monseigneur Christori, bonjour.
Bonjour Christophe.
Heureux de vous retrouver au terme de cet été caniculaire. Alors vous me permettrez de vous demander tout d'abord si vous avez passé de bonnes vacances.
J'ai eu des bonnes vacances, oui, parce que les prêtres, comme les évêques d'ailleurs, ont droit à 5 semaines hors de leur fonction habituelle de travail et pour se reposer, mais c'est un repos qui est dans la lumière de Dieu, c'est-à-dire qu'on essaie d'avoir des vacances qui soient un peu familiales, souvent amicales aussi, simples, par définition, je pense que c'est important, mais aussi dans l'union à Dieu, donc... On découvre aussi des lieux, des églises, des paroisses. Et... Oui, c'était bien.
Et ces vacances, vous ont emmené où alors? Vous avez visité plusieurs points de France?
J'ai fait un grand circuit parce qu'en fait, j'ai des amis qui m'attendaient en Bretagne Sud, à Belz, qui est près d'Etel. Puis Bretagne Nord, près de Dinard, à côté. Et puis ensuite, j'ai rejoint ma maman, qui est veuve, avec deux de mes sœurs, un beau-frère, dans la Drôme, donc près d'Orange. Donc ça m'a fait faire quelques kilomètres, effectivement. Et entre-temps, je suis passé à Chartres plusieurs fois, notamment pour le 15 août. On a fêté l'Assomption à Chartres avec cette très belle procession qui a traversé la ville, le centre-ville. La messe le matin, bien sûr, très haute en couleur. Et on a fini par des célébrations à la cathédrale avec les vêpres. C'était une très belle journée ensoleillée. Donc oui, des bonnes vacances.
Ouais. C'est une fête qui vous est particulièrement chère, l'Assomption.
Je crois qu'elle est chère d'abord dans le cœur des Français parce qu'ils ont un jour férié. Mais elle est chère parce que oui, la Vierge, nous l'aimons, nous la célébrons spécialement à Chartres, mais dans beaucoup de cœurs de chrétiens, et qu'elle nous montre le chemin du ciel, quoi, nous disant « Faites tout ce que Jésus, mon Fils, vous dira ». Donc oui, c'est important.
Alors, pour cette émission de rentrée, j'aimerais qu'on revienne ensemble sur un des grands événements de l'été. Il s'agit du pèlerinage diocésain de Lourdes qui s'est déroulé cette année du 19 au 23 août. Le pèlerinage de Lourdes n'est pas un pèlerinage comme les autres. C'est réellement celui de l'humanité souffrante qui s'abaisse à demander à Dieu la guérison de l'âme et du corps. On est vraiment au cœur du christianisme, là, non?
Je pense que c'est un rendez-vous qui répond bien à la phrase de Jésus, hein. Tout ce que vous ferez au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous le ferez. Donc moi, je connaissais Lourdes. J'étais à Lourdes plusieurs fois dans mon histoire avec des pèlerinages de jeunes, de paroisses aussi. Mais là, je découvrais à la fois, il y a deux réalités. Il y a ce qu'on appelle le pèlerinage. Donc là, le diocèse entier est invité à faire un pèlerinage. Donc environ 140 personnes sont venues, et il y a l'hospitalité qui est animée donc par des hospitaliers qui ont entre 16 ans et 80 ans, donc des personnes, hommes, femmes, laïcs, qui sont membres, on peut dire engagés après quelques années de préparation dans l'hospitalité pour accompagner donc des personnes invalides, parfois très âgés, parfois très diminués physiquement, mais pour qui la joie, c'est de venir chaque année, ces 5 journées, où il y a un échange d'affection entre tous. Et ça, je me disais, j'en ai parlé un petit peu en homélie, beaucoup de gens viennent pour aider les plus fragiles. Je ne sais pas qui aide qui, au fond. Au fond, nous, comme personnes vaillantes, on peut dire, parfois mal au dos, mais je veux dire, on peut penser que c'est nous qui apportons. Or, je vois combien ceux qui viennent pour aider sont aidés elles-mêmes à découvrir leur capacité à aimer, leur capacité à la tendresse, à la patience, à prendre soin, à demeurer dans l'écoute. Et alors moi, je l'ai très touché par effectivement ce climat de très grande bienveillance et de joie partagée. Je voyais les jeunes, peut-être 17 ans, 18 ans, qui rentraient le soir tard, après des grosses journées qui commencent à 6 heures du matin, je crois environ, pour l'équipe, qui étaient pleins de joie, ces jeunes. Donc, oui, il y a un échange très beau.
Oui. Alors, évidemment, le secret espoir qui anime les malades durant le pèlerinage, c'est la guérison miraculeuse. Jésus lui-même opérait des miracles. On a toujours du mal à parler des miracles parce qu'évidemment, ils n'arrivent pas comme ça périodiquement. Cependant, c'est tout de même aussi là au cœur de l'histoire de Lourdes.
Bah, c'est-à-dire que Lourdes, depuis le début, puisque c'est même quand Bernadette est à la grotte, il y a une femme qui a un enfant qui est quasiment mourant, qui est bleu, comme on dit, de maladie, et cette femme va oser le tremper dans l'eau qui jaillit de cette source dans la grotte, dans ce cadre un peu de pauvreté aussi, et cet enfant va être guéri de manière étonnante à l'époque. On n'a pas fait un constat d'un miracle comme on fait aujourd'hui, mais alors il y a beaucoup de guérisons, au sens que des gens sont guéris du cœur, de leurs troubles intérieurs, mais aussi physiquement. On a rencontré un homme qui est assez jeune, cinquantaine d'années, qui a eu une sclérose en plaques et qui témoigne d'une guérison totale aujourd'hui. Il n'est pas dans ce qu'on appelle les miraculés. Les miraculés, aujourd'hui, sont 70. La dernière, c'est une religieuse qui s'appelait Bernadette, qui a été à Lourdes il y a 10 ans, sans attendre de guérison pour elle-même, sans la demander, et qui a expérimenté une rencontre de grande paix à Lourdes, et qui a retrouvé cette même paix 3 jours après en priant, et qui a ressenti alors une très grande chaleur, et une voix qui lui disait « Enlève ce que tu portes ». Or, elle portait un corset depuis des années. Elle avait plus de 20 ans d'opérations très lourdes. Elle avait un pied tordu tenu par une attelle. Elle avait une pompe à morphine. Elle a enlevé tout ça. À sa grande surprise, son pied était redevenu droit. Elle n'a plus rien. Ça fait 10 ans qu'elle vit sans cette maladie et sans cette déformation, on peut dire physique. Elle a dit qu'elle a vu plus de 300 experts français, des médecins de haut niveau, et on convient de dire aujourd'hui que c'est un miracle.
Ouais. Alors moi, à un paralytique qui lui demande la guérison, Jésus répond qu'il soit fait selon ta foi, et ça c'est une phrase que je trouve merveilleuse, parce que finalement, ça veut dire que Dieu ne peut rien si l'homme n'ose pas la confiance, quoi. C'est merveilleux.
Oui, alors, c'est même, en même temps, c'est compliqué, parce que le Christ, de son vivant, ici sur terre, guérit beaucoup pour montrer ça, à la fois la tendresse de Dieu, sa miséricorde, et montrer son autorité pour qu'il, sur le mal, quoi, ce qui blesse profondément les gens. Aujourd'hui, on aura envie de dire, j'ai la foi, Seigneur, et pourtant, je ne suis pas guéri. Mais s'opèrent d'autres guérisons intérieures, d'autres chemin de paix. D'ailleurs, je vois que les gens ne sont pas arc-boutés à une demande de guérison physique. Oui. Ils sont plutôt à profiter, au bon sens du terme, de la paix intérieure, de la paix qui est aussi transmise par la communion entre tous. Et ils en reviennent profondément renouvelés dans l'espérance, alors que leur vie n'est pas simple, souvent dans des EHPAD, dans des maisons spécialisées, où il y a beaucoup moins cet entourage qu'ils ont vécu pendant quelques journées là, mais qui a été pour eux un vrai cadeau.
Alors ensuite, du 26 au 31 août, vous avez fait une retraite personnelle. Alors forcément, je vais me montrer indiscret, c'est une retraite personnelle. Vous n'êtes pas du tout obligé de répondre à mes questions, mais je voulais savoir où êtes-vous, allez-vous recueillir. Et peut-être, est-ce que vous pouvez nous dire, un tant soit peu, ce qui s'est passé pour vous pendant cette période ?
Oui, en fait, d'abord j'aime parfois être à l'écart dans des lieux de prière. Encore une fois, le Seigneur peut nous parler en tout lieu, dans le travail, la vie familiale, on peut le rencontrer. Mais parfois il est bon de se mettre à l'écart. Et les monastères en France ont souvent des hôtelleries où on peut tous venir. Même des non-chrétiens peuvent venir. Frapper à la porte d'un monastère, dire « j'aimerais passer quelques jours avec vous, dans le silence, méditer, peut-être rencontrer quelqu'un, un moine ou une moniale, si c'est des femmes, pour discuter, pour parler un peu de vie spirituelle, de ma vie ». Et ça, c'est très ouvert, et j'encourage vraiment tous ceux qui nous écoutent à la radio de sentir de le faire. Alors, il faut trouver un monastère comme par exemple Saint-Benoît-sur-Loire, près d'Orléans. Mais moi, j'ai souhaité aller à l'abbaye de Céphon, qui est près de Moulins, dans l'Allier, je crois, si je ne me trompe pas, de département. C'est une très belle abbaye où vivent plus de 80 hommes, moines. La règle cistercienne, donc, qui a été fondée par Saint Bernard. Donc une vie assez austère, quand même, de silence, de grand silence. Mais ils ont une liturgie très bien célébrée à plusieurs heures de la journée, donc le matin, le milieu de journée, le midi, l'après-midi, le soir, où on se retrouvait tous ensemble. Alors la joie que j'ai eue, c'est comme j'arrivais comme évêque, j'ai admiré parce qu'ils m'ont accueilli comme un évêque, quoi. Donc j'étais un peu dans mes petits souliers parce que être évêque, ça me surprend toujours un peu. Donc j'ai pu parler beaucoup avec un frère, le frère Emmanuel. Ça m'a beaucoup encouragé de me fier au Seigneur. J'ai marché dans la campagne, c'était assez beau, il faisait relativement beau. Et notamment, j'ai gardé une parole qui est « Moi, je m'appuie sur toi ». Donc c'est un psaume qui disait ça. « Moi, je m'appuie sur toi », ben, je rentre de cette retraite avec cette idée de m'appuyer sur le Seigneur autant que je peux. Dans le quotidien, dans ce que j'aurais à faire dans ma mission d'évêque.
Monseigneur Ricucci, avant de vous libérer, est-ce que vous allez reprendre le cours des petites histoires que vous nous racontiez l'an dernier, avant la rentrée ? Est-ce que vous avez une petite anecdote à nous conter ?
Oui, enfin, je ne sais pas si c'est une anecdote. C'est que avant d'aller à Lourdes rejoindre les pèlerins de l'hospitalité, j'ai été invité à célébrer la grand-messe de la fête paroissiale de l'église Saint-Jean-Baptiste à Saint-Jean-de-Luz.
Magnifique.
Donc c'est sur la côte basque, en bas. Alors c'est des églises, d'abord il y a un retable, donc le retable c'est une sorte de monument décoratif, mais avec des statues qui est doré. Alors c'est tout le fond de l'église, ce n'est qu'un retable doré, donc c'est magnifique. Et puis elles ont comme caractéristique d'avoir des balcons, il y a des balcons en bois un peu qui courent le long des murs et tout le fond de l'église. Et il y a 3 hauteurs de balcons sur les côtés et 5 au fond. Et pour cette messe, l'église était pleine, les balcons étaient pleins jusque au plafond en fait. Et puis il y a ces chants basques.
Ah, les chœurs basques. Hein.
Alors ça, il y a des voix qui sont graves, qui sont harmonieuses, qui sont puissantes. La messe était célébrée d'ailleurs, moi je la présidais, mais elle a été prêchée par le père Stan Rougier, qui est un prédicateur qui est assez merveilleux, et il y avait des chants basques, des prises de parole en basque aussi, alors ça, moi je comprends le basque, mais ça a été une expérience de l'église, on peut dire diverse pour moi, qui montre que c'était aussi, les gens étaient profondément heureux, quoi. Et en même temps c'était sacré, c'était priant, une très très jolie messe, ouais. Voilà mon histoire.
Merci beaucoup, on se retrouve la semaine prochaine, et la semaine prochaine, figurez-vous, on ira à Rome.
Eh bien, avec joie.
Excellente fin de journée à toutes et à tous, et restez à l'écoute des programmes de Radio Rancière, la radio qui rapproche les hommes.